VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Ouagadougou, 17h à Brazzaville. Bienvenue à notre journal. Campagne présidentielle américaine, la candidate démocrate à la présidence Hillary Clinton et son colistier pour la vice-présidence Tim Kaines commencent aujourd'hui une tournée électorale en Pennsylvanie et sur le lendemain de la soirée historique à la convention du Parti démocrate à Philadelphie, la grande métropole de cet État, où Mme Clinton est devenue la première femme de l'histoire des États-Unis à accepter l'investiture d'un des deux grands partis américains comme candidate à la Maison-Blanche. La convention est maintenant terminée, c'est l'heure du bilan. Gabi Dorsil a demandé à notre envoyé spécial sur place, Idrissa Sedoudia, ce que l'on peut retenir de la convention, en commençant bien sûr par les points positifs.
Il y a eu d'abord cette tentative de réunifier le parti avec les partisans de Bernie Sanders. Le Parti démocrate a tout fait pour accommoder l'aile gauche du parti. Et je crois que dans une grande mesure, le parti est arrivé. Bon, il y a toujours un noyau dur de partisans de Bernie Sanders qui ne veulent pas du tout céder sur l'essentiel. Pour Bernie Sanders, l'essentiel, c'est surtout de faire en sorte que Donald Trump ne soit pas élu en novembre. Alors, il y a eu aussi un autre aspect positif, c'est la diversité qui a été démontrée tout au long de cette convention. Beaucoup de personnes appartenant à différentes couches sociales, à différentes ethnies. C'était vraiment l'image de l'Amérique que l'on voyait là-bas, l'Amérique réelle. Ce qu'on appelle ici le melting pot, une Amérique qui est faite de toutes les couleurs, de toutes les origines. D'ailleurs, Hillary Clinton, elle-même, dans son discours, pour bien souligner son point, elle a rappelé le motto de l'Amérique, à savoir « E pluribus unum », de tout un tas de peuples différents, on fait un seul peuple. Et c'est ça l'Amérique.
Alors, Idrissa, il faut mentionner aussi que même des républicains ont été invités à la convention.
Oui, des républicains qui sont venus à la convention pour dire clairement qu'ils ne pouvaient pas appuyer Donald Trump et que Donald Trump ne savait pas de quoi il parlait et que certainement pas il n'était pas Ronald Reagan et que les gens devaient mettre au-dessus de toute considération partisane l'intérêt supérieur de la nation et appuyer Mme Clinton.
Idrissa Sedoudia, envoyé spécial de VOA Afrique à Philadelphie, en Pennsylvanie.
Merci, Gabri Dorsil. On passe maintenant à l'Afrique. Hissène Habré, l'ex-président tchadien reconnu coupable de crimes de guerre et crimes contre l'humanité fin mai, a été condamné aujourd'hui à verser entre 10 et 20 millions de francs CFA par victime par le tribunal spécial africain qu'il a jugé à Dakar au Sénégal. Les détails avec Claire Morin-Gibourg.
L'annonce a été faite par Berdao Gustaf Kam, le président des Chambres africaines extraordinaires. Ce tribunal spécial, qui avait déjà condamné Hissène Habré à la prison à vie, a ordonné l'indemnisation des victimes. Hissène Habré doit payer à chacune des victimes de viol et d'esclavage sexuel la somme de 20 millions de francs CFA. À chaque victime de détention arbitraire, prisonnier de guerre et rescapé, la somme de 15 millions de francs CFA. Et à chacune victime indirecte ayant perdu des proches, 10 millions de francs CFA. Le jugement a été rendu en l'absence de M. Habré, mais les avocats commis d'office pour sa défense étaient présents. Selon la tchadienne Jacqueline Moudeina, présidente du collectif des avocats des victimes, le nombre total de victimes est de 4733, dont 1625 directes, a-t-elle déclaré à la presse à l'issue de l'audience. Parmi ces victimes, une quinzaine de femmes ont été, selon elle, victimes de viols et d'esclavage sexuel.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Nous restons en Afrique. Une force armée régionale alliée aux militaires nigérians a repris le contrôle de Damasak dans le nord-est du Nigeria. C'est à Damasak que les djihadistes de Boko Haram avaient tué plus de 200 personnes et kidnappé des centaines d'enfants lors de la prise de cette ville il y a 2 ans. Jacques Aristide.
Dans un communiqué, l'armée nigériane indique que les troupes de la Force d'intervention conjointe multinationale, MNJTF en sigle, occupent Damasak dans le cadre de leur mission de reconquête des villes et des villages. Cette force régionale, qui est basée au Tchad, est composée de soldats du Nigeria, du Niger, du Cameroun et du Bénin. Elle a été mise en place pour tenter d'en finir avec Boko Haram, qui ravage la région du lac Tchad depuis 7 ans. Damasak, non loin de la frontière avec le Niger, est au cœur d'une zone agricole et halieutique. Cette ville stratégique avait été capturée par les islamistes de Boko Haram en novembre 2014. Les combattants avaient alors tué plus de 200 personnes et kidnappé 400 enfants, poussant plus de 14 000 personnes à se réfugier vers Diffa, au Niger voisin. Les soldats tchadiens ont aidé à la reprise de la ville en mars 2015, mais les djihadistes restent actifs dans la zone et continuent de mener des attaques au Nigeria, au Tchad et au Niger.
Au Mali, les magistrats sont en grève à l'appel de leur syndicat pour réclamer une hausse de leur salaire, des indemnités et l'octroi de primes de risque. Le point avec Arzuma Compaoré.
La grève a été déclenchée mercredi pour 3 jours. En principe, elle se termine aujourd'hui. Le syndicat autonome de la magistrature, SAM, a lancé ce mot d'ordre pour réclamer des augmentations de salaire, des indemnités de logement et l'octroi de primes de risque et de recherche. À Bamako, le fonctionnement de plusieurs tribunaux a été perturbé. Des syndicalistes avaient érigé des piquets de grève bloquant l'accès aux lieux de travail. Cheikh Mohamed Sherif Kone, un leader syndical, a assuré que le mouvement était suivi à 100% sur toute l'étendue du Mali, qui compte 573 juges, dont 450 sont membres du SAM. Mamadou Ismaël Lakonaté, ministre de la Justice, a expliqué que les discussions avec les magistrats n'ont pas abouti, mais que plusieurs de leurs revendications ont été satisfaites.
En RDC, meeting de la majorité présidentielle aujourd'hui au stade Tata Raphaël de Kinshasa pour exprimer son soutien au dialogue national. On écoute André-Alain Outundu, porte-parole de la majorité présidentielle, au micro de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
C'est un appel. C'est un appel de la majorité présidentielle à l'opinion pour soutenir le combat politique du président Kabila pour le processus électoral, notamment par l'enrôlement et par le dialogue qui est la voie aujourd'hui obligée pour aboutir à des élections apaisées et à une période post-électorale non violente.
André-Alain Outundu de la majorité présidentielle en RDC. Crise migratoire maintenant, confrontée à des arrivées massives sur ses côtes, l'Italie multiplie les initiatives pour faire avancer son Migration Compact, un plan destiné à endiguer le flux des migrants grâce à la coopération avec les pays d'origine et de transit. Le point avec Anastasie Tudiesch.
Le gouvernement italien et l'Organisation internationale pour les migrations ont lancé hier une campagne à destination des habitants d'une quinzaine de pays d'Afrique de l'Ouest et du Nord pour prévenir l'afflux des candidats à l'immigration clandestine vers l'Europe. Plus de 400 000 migrants sont arrivés sur les côtes italiennes depuis 2014. Cette campagne, baptisée Aware Migrants ou Migrants conscients, au budget de 1 500 000 euros, veut avertir des dangers du voyage. Elle va faire passer des clips, des témoignages sur les réseaux sociaux, télévision et radio des pays visés.
Et puis en Pologne, le pape François a visité ce matin le camp nazi d'Auschwitz-Birkenau où il a rencontré des rescapés des atrocités nazies et un groupe de ceux qui ont risqué leur vie pour sauver les Juifs pendant l'Holocauste. Les précisions d'Arzuma Compaoré.
En arrivant au camp d'Auschwitz près de Cracovie, le pape a traversé à pied, seul et en silence, le célèbre portail orné de mots « Arbeit macht frei », qui veut dire « le travail rend libre », avant de se plonger dans une prière silencieuse. Le pape a rencontré un groupe de 12 rescapés du camp de la mort, dont la violoniste de l'orchestre du camp Elena Dunich-Niewinska, qui a 101 ans. Le souverain pontife s'est ensuite rendu dans le camp d'Auschwitz II ou Birkenau. Il s'est déplacé à bord d'une voiture électrique le long des rails qu'empruntaient les trains bourrés de déportés vers les chambres de gaz et les crématoriums. Environ 1,1 million de personnes ont été tuées à Auschwitz-Birkenau, dont 1 million de Juifs européens. Plus de 100 000 prisonniers non-juifs, polonais, roumains et prisonniers de guerre soviétiques y ont également péri. L'armée rouge a libéré le camp en 1945.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.